Je donne juste une petite explication pour les gens de l'Église. Nous avons entrepris une série d'études pour parcourir la première épître d'un Corinthien. Nous sommes arrivés au chapitre 4 et avec le départ de plusieurs personnes cette rentrée qui se sont dispersées ici et là, nous nous retrouvons peu nombreux et il me semble que il n'est pas très adapté que nous poursuivions cette étude d'un Corinthien en ce moment. On le fera lorsque le temps sera plus opportun. Mais je vais revenir à la série que nous avions commencée, que je vous disais que j'allais reprendre dans ce qu'on appelle le discours de la chambre haute, c'est-à-dire Jean chapitre 13 à 17, tout ce qui s'est passé la nuit avant la crucifixion de notre Seigneur dans cette pièce, enfin, dans la marche vers le jardin de Gethsémané. Donc, nous sommes arrivés au chapitre 16 et nous lisons aujourd'hui les versets 1 à 11. Et donc, nous reprenons cette méditation, cette série que nous avions commencée. Nous lisons la parole de Dieu. Ce sont les mots qui sont sortis de la bouche de notre Seigneur la nuit où il fut livré. Je vous ai parlé ainsi, Jésus vient de dire que les chrétiens seront haïs par le monde. D'accord? Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Ils feront cela, et ça s'est réalisé en Israël, exactement comme cela. Et ailleurs, même dans l'Empire romain, pendant les deux premiers siècles. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père, ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, il s'en va. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Notez bien la manière de qualifier le Père. Normalement, il dit le Père dans ce discours. Maintenant, il change. C'est important. Il y a une raison pour laquelle il dit je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur, le paraclète, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde, donc Satan, est jugé. Nous n'allons pas pouvoir regarder tout cela, les trois derniers versets, nous verrons la prochaine fois, mais nous allons aborder cet incident et son enseignement pour nous ce matin. Premier point, il faut qu'en tant que chrétien, vous soyez avertis et préparés pour la haine du monde que vous allez subir. Jésus donc dit cela pour deux raisons. Vous avez besoin de cette préparation, cet avertissement pour deux raisons. Première raison, pour que vous ne soyez pas, en raison des fausses attentes, scandalisés quand la vie chrétienne signifie beaucoup d'opposition, scandalisés, étonnés, jusqu'au point de douter du Seigneur et de douter de la véracité, de la bonté de la foi chrétienne. Lisez avec moi le verset 1 encore.
Il dit, je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. C'est ça. Vous voyez? Ils vous excluront des synagogues et même leur vient ou quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu.
Mettez-vous à la place. Nous sommes là dans cette chambre haute et le Seigneur nous dit, le jour viendra où n'importe qui vous fait mourir pensera qu'il a offert un service formidable à Dieu. Tellement vous serez vous considérés comme des hérétiques, comme des mauvais gens, comme des menteurs, comme une menace pour la vraie foi et la vraie spiritualité. Je me demande ce qu'ils devaient penser en eux-mêmes. Mais Seigneur, est-ce que nous en serons arrivés au point où on nous regardera comme cela? Oui. Vous arriverez à ce point, et comme c'est tellement extrême, il faut que vous soyez préparés pour ne pas être complètement déboussolés quand cela vous arrive. Et il dit, dans le verset 3, « Ils vous feront cela parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. » Vous voyez ce qui pousse les gens à vous persécuter en tant que chrétien? Ce n'est pas que vous êtes aussi mauvais que ça, c'est parce qu'il y a une ignorance maléfique qui tombe sur les hommes. Et croyant le mensonge, étant dans ces ténèbres, cette lumière que vous avez, cette vérité, est tout simplement insupportable. La deuxième raison pour laquelle il faut que vous soyez avertis et préparés vis-à-vis de cette haine du monde, pour vous, c'est que quand ces troubles arrivent, il faut que votre foi soit renforcée par les troubles et non pas minée par ces troubles. Regardez le verset 4. Je vous ai parlé ainsi. Vous voyez que c'est la deuxième fois. Regardez le verset 1. Je vous ai parlé ainsi. Le verset 4. Je vous ai parlé ainsi. D'accord? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux raisons pour cet avertissement. Pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Quand les troubles, mais pas possibles, nous arrivent parce que nous sommes chrétiens, alors, et que nous nous souvenons que Christ l'a dit exactement comme ça. Tout ce que je vis, le Père contre son Fils, tout ce qu'il a dit dans la parole se réalise, mais à la lettre, qu'est-ce que ça fait à ma foi? Est-ce que ma foi est ébranlée à cause des persécutions? Ma foi est émerveillée. Je me souviens qu'il m'a dit exactement que cela, et ça s'est passé. Vous voyez? Je vous ai dit ces choses afin que vous vous souveniez, et que ce souvenir vous renforce plutôt la foi. Vous savez que les jeunes chrétiens sont souvent étonnés de ce que ils sont tellement heureux d'avoir trouvé la vérité et cette nouvelle d'un sauveur qui nous sauve gratuitement, sans aucune contribution, une pure grâce imméritée, un Dieu qui nous aime tel que nous sommes et qui nous prend, qui nous offre la vie éternelle par la souffrance du Fils de Dieu. Et le nouveau chrétien dit, mais tout le monde va vouloir entendre ça. Il faut juste que je leur dise. Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas entendu. Et maintenant, quand je vais leur dire, ça va être, on va se réjouir ensemble. Et vous allez auprès de la famille, des amis, vous leur racontez. Et qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous racontes? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu deviens? Jusqu'au point où, de nombreuses fois, je connais des jeunes chrétiens qui me disent, mes parents me disent qu'ils préféreraient que j'ai des problèmes d'alcool ou de drogue ou que je sois immoral d'une autre manière que de devenir chrétien fanatique comme je le suis. Et je connais des gens que leurs parents même ont essayé de leur poussés dans des formes d'immoralité sexuelle pour les les ôter de la foi chrétienne. Donc, une opposition qui étonne le jeune chrétien, il dit, ben, il a le vertige, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et Jésus veut que vous sachiez que cette opposition incroyablement forte doit vous montrer une chose, que votre salut est incroyablement grand. C'est-à-dire que vous étiez là aussi, vous. Vous apparteniez à cette bande, à cette attitude. Et regardez maintenant la distance entre vous et ce que vous étiez. Cette opposition est la mesure de la distance que le Seigneur vous a enlevée de tout cela. Ça montre la grandeur de la différence qu'il a fait dans votre vie. Et donc vous pouvez, au milieu de cette tristesse pour les autres et vos efforts qui continuent de les convaincre et de prier que Dieu œuvre en eux, vous pouvez vous être reconnaissant vraiment combien est-ce que je suis différent de ce que j'étais. Je le vois maintenant dans cette opposition que je subis. Donc, il nous faut un sacré réalisme en tant que chrétien. Et il ne faut pas que nous soyons ébranlés par ces attitudes du monde vis-à-vis de nous. Mais ce réalisme ne va jamais sombrer dans le pessimisme si nous comprenons le reste de ce que Jésus a dit dans ce passage. Et nous allons maintenant regarder cela. Donc, le premier point, c'est qu'il faut que nous soyons préparés et avertis vis-à-vis de la haine du monde. Et le deuxième point, dernier point du message, c'est qu'il faut que vous soyez encouragés, malgré l'opposition du monde, que cet âge de l'Église, c'est-à-dire le temps entre le départ de Jésus et son retour, cet âge de l'Église est un temps où le salut de Dieu avance en vous et dans les autres par vous, malgré l'opposition du monde. Et voilà ce que Jésus va dire. Nous allons relire les versets 5 et suivants. Jésus dit ceci pour les encourager. Il dit, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. » Vous voyez le pessimisme qui commence? Il va falloir que Jésus les corrige, parce que cette tristesse n'est pas selon la vérité. Cependant, c'est-à-dire, vous êtes triste, vous êtes en train de regarder en noir les choses, je pars, vous croyez que c'est la fin du monde. Cependant, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Nous sommes censés vivre dans un optimisme et un réalisme, malgré l'opposition du monde. Le réalisme, on l'a déjà vu. L'optimisme, maintenant nous voyons. Imaginez que vous êtes à la place des disciples ce soir-là et vous venez d'entendre qu'il y a une persécution incroyable qui va venir. Tout le monde va vous haïr. Et maintenant, en plus, vous avez cette bonne information que Jésus s'en va et il ne sera pas avec vous dans tout cela physiquement. Et nous pouvons comprendre pourquoi Jésus dit « Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et la tristesse vous a rempli le cœur. » Jusqu'au point, vous savez comment on est sûr qu'on a trop de tristesse. C'est quand la tristesse me renferme en moi-même et je ne peux pas penser à l'autre. Et Jésus dit, la tristesse a rempli votre cœur et nul de vous ne me demande où vas-tu. Personne ne pense à moi et ce que mon départ signifie pour moi. Je vais auprès du Père. C'est la victoire, c'est la résurrection qui arrive. C'est l'achèvement du salut. Mais personne d'entre vous ne pense à dans ces termes. Vous ne pensez qu'à vous. Qu'est-ce qui va nous arriver sans Jésus? Vous voyez combien nous sommes aptes à tourner une vérité dans un sens qui est très mauvais pour nous. Mais Jésus dit que ce qui semble être la plus grande perte pour nous va en fait être un grand gain. Il dit dans le verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, malgré ta tristesse qui a un peu égaré, je vous dis la vérité. » Alors en grec, « je vous dis la vérité » est dans une forme très emphatique. Il dit, « Moi, je vous dis la vérité. » Écoutez ceci. Il faut que ce soit un article de foi parce que vous ne pouvez pas le sentir ou le voir, mais je vous dis que c'est vrai. Il dit, « Il est avantageux pour vous que je parte. » Et il donne la raison. « Car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » La première chose que nous devons comprendre, c'est que Jésus n'est pas en train de dire que c'est simplement mon absence qui sera un gain pour vous. Si je ne suis pas là, le Saint-Esprit va être là. Ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas si vous avez jamais regardé ces émissions de lutte un peu farfelues. C'est un truc un peu américain. Ils sont dans un truc de boxe. Hein, et donc, il y a deux qui luttent et ils se jettent partout dans le... Et parfois, ils font ça en paire. Donc, il y a une paire qui lutte contre une autre paire. Mais il n'y a qu'une personne de chaque équipe dans le ring à la fois, n'est-ce pas? Et à un moment donné, il y en a un qui est presque plaqué par terre. Il arrive juste à étendre sa main en dehors du ring et il touche son partenaire. Et s'il peut le toucher, l'autre peut venir le remplacer. Ça, c'est le catch. OK, bon, voilà. Le catch, oui, en français. Oui, oui, oui. Tu regardes? Bon, félicitations, Pascal. C'est pas comme ça. C'est pas que Jésus est là à un moment donné et puis il touche le Saint-Esprit et le Saint-Esprit revient à sa place. Non. Jésus est en train de dire que si je m'en vais... D'abord, il dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Pourquoi? Parce que je dois m'en aller, mais pas de n'importe quelle façon. Je dois quitter le monde en tant qu'homme par la seule manière un homme peut quitter ce monde, c'est-à-dire je dois mourir. Si je meurs et je paie la peine de tous vos péchés et je vous réconcilie avec le Père, là j'obtiendrai pour vous, par ma mort, le don du Saint-Esprit qui vous fera naître de nouveau. Vous voyez ce qu'il veut dire? Si je ne m'en vais pas par la croix, vous ne pouvez rien avoir. Mais si je m'en vais de cette manière-là, je vous l'enverrai. C'est-à-dire que mon départ n'est pas une perte, c'est un gain. Je vous obtiens quelque chose qui est beaucoup plus grande. Il y a des choses qui vont vous arriver à cause de ma mort et ma résurrection qui vont vous transformer la vie, Jésus dit à ses disciples. Il est en train de dire, je vais devenir pour vous un sauveur ressuscité et glorieux. J'aurai toute autorité dans les cieux et sur la terre en tant qu'homme, Père d'une nouvelle famille que vous êtes. Vous aurez donc par cet accès à l'autorité que j'ai en votre nom, parce que je fais tout cela pour vous, vous aurez une nouvelle puissance, une nouvelle autorité spirituelle. Et vous aurez une nouvelle illumination beaucoup plus grande sur les choses spirituelles. Vous rappelez que pendant tous ces 3 ans avec Jésus, les disciples ne comprenaient presque rien. N'est-ce pas? Ils confondaient tout. Et Jésus doit dire, homme de peu de foi, combien de temps est-ce que je serai encore avec vous? Mais le Saint-Esprit le sera donné en beaucoup plus grande mesure et ça changera tout. Il a dit lui-même ce soir-là, un peu plus tôt, un peu plus tard, juste après, mais avant aussi, il avait dit des choses pareilles, il dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez? Il y a des choses que vous ne pouvez pas vivre. C'est impossible. Moi, en dehors de vous, ce n'est pas la même chose que moi, par l'Esprit, en vous. Donc, Jésus est en train de dire, il y a un grand avantage que je suis en train de vous procurer. Je pense que 5 ans après le départ de Jésus à la Pentecôte, les apôtres auraient pu regarder en arrière vers ces 3 ans de ministère avec Jésus et ils auraient pu dire, ces 3 ans, il y a quelque chose d'incomparable. Nous avons vu le Sauveur faire des choses inimaginables. Mais, oh combien nous sommes contents de ne plus être là, parce que par rapport à ce que nous sommes maintenant, on a l'impression que là, pendant ces 3 ans, on était comme des gars dans un rêve. On était à moitié endormis. On pigeait rien. On ne comprenait rien. On était, oui, comme à moitié dans un songe, marchant mais dormant. Et heureusement, nous ne sommes plus comme cela. Donc ça c'est le changement, l'avantage que nous avons, qui est entamé et qui doit grandir constamment en vous par l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Mais surtout, Jésus ne parle pas de cet avantage-là, l'avantage personnel pour vous. Il est en train de dire que face à l'opposition du monde que vous avez, le Saint-Esprit vous donne un avantage dans votre témoignage, dans votre capacité d'aider le monde. Regardez le passage. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Vous voyez, je vous l'enverrai, le Saint-Esprit, je vous l'enverrai, mais quand il vous sera venu, il fera quelque chose, non pour vous, mais pour le monde. Il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit est en nous et par notre témoignage, il est maintenant dans ce monde et il est à l'œuvre. Et il est à l'œuvre sur les choses vraiment principales, les 3 choses qui concernent l'homme de la manière la plus importante. Et c'est quoi? Le péché, c'est le, L majuscule, le problème de l'homme. Le Saint-Esprit est venu convaincre, révéler aux hommes le problème du péché, de l'état de péché vis-à-vis de Dieu. Et surtout parce qu'il ne croit pas en moi. Il convaincra le monde du péché parce qu'il ne croit pas en moi. Dimanche prochain, je vais entrer plus en détail. Mais c'est ce péché de l'incrédulité quand Dieu lui-même vient dans le monde de manière incarnée et montre son amour pour les hommes. Et le fait de refuser cela, ça manifeste le péché mieux que toute autre chose que vous puissiez dire à qui que ce soit. Donc, si vous voulez convaincre quelqu'un de leur péché, il faut que vous alliez là. Oui, parlez-leur de leur mensonge, de leur orgueil, de leur ceci ou cela, mais oulala, le Saint-Esprit convainc les hommes de péché parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Deuxièmement, la deuxième grande chose qui concerne les hommes, c'est la justice. Bon, non pas la justice distributive ou rétributive, c'est-à-dire non pas la justice des tribunaux. Ici, il s'agit de la justice qui sauve, la justification. Une justice humaine que Jésus forge dans sa vie et dans sa personne, une vie parfaite que je n'ai pas vécue, il a vécue pour moi, et une expiation parfaite que je n'aurais pas payée pour mes péchés, il paye. Donc voilà cette justice qui peut maintenant régler mon injustice. D'accord ? Et le Saint-Esprit vient convaincre le monde par l'Évangile et par vous qu'il n'y a qu'un seul moyen de revenir au Dieu vivant, et c'est lui qui l'a fait, et ce n'est pas par la puissance métaphysique que tu reviens à Dieu, c'est par la justice morale, l'obéissance d'un autre, qui est le Fils de Dieu, à votre place. C'est lorsqu'il a dit non à Satan dans le désert. C'est lorsqu'il a dit « Oui, ô Père, que ta volonté soit faite dans le jardin. » C'est lorsqu'il reste et les hommes, « Tu ne peux pas te sauver toi-même. » Et il dit « Non, je ne peux pas sauver moi-même si je veux les sauver. » Et il obéit. Il est saint, il est juste, il est bon. Tout ce que le Père veut d'un homme et voulait de vous, c'est lui qui a rendu. Il devient le répondant pour vous. Vis-à-vis de la justice, parce que Dieu est sainteté, il est un Dieu moral. Donc le Saint-Esprit vient convaincre les hommes qu'il y a cette bonne nouvelle d'une justice qui est adéquate pour couvrir vos fautes et vous réconcilier de manière juste. Et troisièmement, il y a le jugement. Le péché, c'est le problème, la justice, c'est la solution. Et le jugement, c'est la raison pour laquelle il nous faut une solution pour le problème. Il va y avoir un jugement. Et le Saint-Esprit convainc les hommes que ce jugement vient, et d'ailleurs que ce jugement est déjà venu au calvaire, parce qu'il dit « le prince de ce monde est jugé ». La Bible dit qu'à la croix, Satan s'est fait exposer pour le meurtrier qu'il est. Il a convaincu le premier Adam de lui obéir. Il a gagné légitimement l'emprise sur l'humanité par une obéissance volontaire à sa voix satanique. Ah, mais le deuxième Adam, il n'a jamais obéi à la voix de Satan. Jusqu'au moment où il entre, Satan, dans Judas Iscariote, il entre en lui, il trahit le Fils de Dieu qui n'a jamais désobéi au Père, et il pousse les hommes impies à mettre le Fils de Dieu parfait, un homme parfait, sur une croix, le faire mourir. Et la mort est seulement la peine pour le péché. Mais Satan fait mourir un homme qui n'a pas péché. Et maintenant, il est condamné. Parce que illégitimement, il se révèle comme celui qui ne vient que pour mentir, voler et tuer. Il a tué l'homme innocent. Et maintenant, il en est fini. À la croix, Jésus-Christ a dépouillé les puissances des ténèbres. Et cela, le Saint-Esprit nous convainc et convainc le monde que c'est juste la première partie d'un jugement maintenant qui va détruire tout le royaume des ténèbres. Sortez-vous vite parce que c'est déjà en train de se passer. Voilà le message que nous devons apporter aux hommes. Maintenant, je finis mon message en posant des questions. Est-ce que vous êtes optimiste dans le témoignage chrétien? Je ne veux pas dire que vous pensez que vous allez gagner tout le monde à Jésus. Dieu a ses élus, ils viendront. Est-ce que vous êtes optimiste que, quelle que soit l'opposition de quelqu'un, que le Saint-Esprit peut sans aucun problème convaincre cette âme de son péché, de la justice de Jésus, qui est la seule qui puisse le sauver, et du jugement? Est-ce que vous priez? Quand vous priez pour les gens dans ce monde, est-ce que vous priez pour, précisément, pour que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour les convaincre du péché, de la justice et du jugement? Parce que nos prières doivent aller dans le sens de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que nous prions cela? Et est-ce que quand vous témoignez, est-ce que vous œuvrez avec le Saint-Esprit ou pas avec lui? Parce que si lui, il veut convaincre les gens de trois choses, il vaut mieux que vous parliez de ces trois choses. N'est-ce pas? Est-ce que vous parlez aux hommes de leur péché et de leur péché d'incrédulité, parce qu'ils n'ont pas cru en lui? Est-ce que vous parlez de la justice, parce qu'il est allé auprès du Père? Et je vais vous montrer dimanche prochain, c'est une manière de dire que sa résurrection est la preuve d'une justice que Dieu a, qui a satisfait Dieu. Sinon, Dieu ne l'aurait pas pris auprès de lui. Il est ressuscité, non pas par lui-même, le Père le ressuscite, il le prend jusque chez lui, parce que sa justice est tellement plaisante, tellement adéquate pour nous sauver. Il dit, allez, tu as tout fini, je suis satisfait, allez, viens. D'accord? Et est-ce que tu parles aux gens du jugement et du jugement de tout le royaume des ténèbres? Ce sont des choses que nous devons dire, et lorsque nous les disons, nous pouvons nous attendre à ce que le Saint-Esprit soit avec nous. La parole du Seigneur est merveilleuse et pleine d'instructions pour nous, que nous puissions donc apprendre et grandir. Nous allons maintenant avoir notre scène et nous allons chanter dans le carnet numéro 65 que nous avons répété tout à l'heure pour nous préparer.